Je vais utiliser des théories, celles de Grémas et celles de Girard. Je vais les comparer pour analyser ce qu'on appelle la narrativité généralisée et appliquer cette narrativité généralisée aux Amériques et en particulier à un texte d'exception qui est l'histoire de Pi de Yann Martel, Life of Pi de Yann Martel. Or, mon premier point, ça va être de savoir sur quoi repose le récit, sur quoi repose la narrativité. Et je me référerai bien sûr aux théoriciens Vladimir Propp, Grémas, Bremond, Barthes, etc., qui ont défini ce qu'est un récit ou une narrativité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un récit ? C'est un appareil de transfert de contenu sémantique, c'est-à-dire que c'est un enchaînement de causalité et de temporalité auxquels sont liés des agents d'action qui transfèrent un contenu de départ en un contenu d'arrivée qui est différent par le biais d'une transformation. Plus simplement, on nous raconte des histoires, il y a toujours au départ un système de valeurs qui est détruit par quelqu'un ou par un certain chaos, et à la fin la situation sociale ou psychologique est rétablie, et cela se produit à travers le fait qu'un certain nombre d'agents d'action combattent les uns contre les autres, et c'est ce que l'on lit dans tous les romans, dans toutes les nouvelles, dans les contes, dans etc., etc. Il se passe toujours cela. Au départ, une situation qui est troublée, à la fin une situation qui est rétablie par des individus qui luttent, et il n'y a plus le même contenu sémantique, le même système de valeurs ou le même ordre au début et à la fin, que ce soit James Bond, Sherlock Holmes, qui vous voulez, ou des romans élaborés, Le Père Goriot, etc., etc. Il se passe toujours fondamentalement, ou les contes populaires, il se passe toujours la même chose. Les agents d'action peuvent être des dragons, des hommes célèbres, n'importe quoi, mais il y a toujours cette même question-là. Situation initiale et situation finale, qui sont différentes. Bon, si on reprend les textes fondateurs, alors les textes fondateurs, vous avez bien sûr, pour les chrétiens, vous avez la Bible, et pour les autochtones d'Amérique centrale, vous, les Mayas Quiché, par exemple, vous avez le Popol Vuh. Le Popol Vuh, c'est l'équivalent de la Bible pour les chrétiens, pour les Mayas Quiché et les autochtones des régions de l'Amérique centrale. Eh bien, que se passe-t-il ? Eh bien, il y a toujours la même chose. Pourquoi est-ce qu'on raconte un récit ? Qu'est-ce qu'on nous raconte dans les récits ? Bien, dans ces récits fondateurs, on nous dit finalement qu'il y a une puissance tutélaire, un dieu, qui donne un sens à la vie et qui crée le groupe dont on parle dans ce livre. Finalement, pour le groupe Maya Kitché ou pour les autres, eh bien, les juifs et les chrétiens. Il y a ce groupe élu par Dieu qui est là. Donc, vous avez au départ, finalement, le Popol Vuh comme la Bible nous disent, on peut dire qu'il y a au départ un contenu sémantique oppositionnel profond qui est vie-mort, vie éternelle ou mort qui peut être éternelle ou pas, justement, qui peut être probablement éternelle aussi. Donc, au point de départ, c'est le lieu de la signification à laquelle on doit se référer et qui repose sur cette question, ce paradigme binaire, vie éternelle, mort éternelle. Bien, quand ces deux textes, le Popol Vuh et la Bible, nous ont dit, eh bien, voilà, il y a cette puissance tutélaire qui donne un sens à la vie, il y a maintenant le groupe élu. Eh bien, le groupe élu, Maya Kitché pour le Popol Vuh, le groupe élu, bien, on nous apprend qu'il fait face à d'autres groupes qui sont menaçants. Bon. Alors, on ne sait pas d'où ils viennent, ces autres groupes, mais c'est cela la situation. Donc, au niveau social, si on veut, il y a d'autres groupes menaçants. Donc, il y a un deuxième paradigme, un deuxième contenu sémantique qui se fait jour, qui est intérieur-extérieur. Il y a ceux qui sont à l'intérieur du groupe, les Maya Kitché, puis ceux qui sont à l'extérieur. Ça peut être n'importe qui, d'autres groupes autochtones, ça peut être des Européens, etc. On sait pas. Bien, troisième point. Troisième point, évidemment, il y a la question de contrôler des richesses pour que le groupe survive. Alors ces richesses, le troisième élément sémantique, le troisième contenu important, ça va être reposé sur richesse-pauvreté. Ces richesses peuvent être culturelles, peuvent être de la nourriture, peuvent être du territoire à contrôler, ce que vous voulez. Donc je dirais que la plupart des récits, on peut dire tous les récits du monde, reposent sur trois contenus sémantiques fondamentaux, vie éternelle, mort éternelle, intérieur, extérieur, et richesse, pauvreté. Et bien sûr, on va voir que, en particulier, ce paradigme intérieur-extérieur peut se préciser suivant les contextes, on le verra tout à l'heure, pour les Amériques. Autrement dit, dans le Popol Vuh comme dans la Bible, vous avez des groupes sociaux qui se pensent comme provenant d'une essence, alors qu'en même temps, ils soulignent qu'ils sont en relation avec les autres, intérieur, extérieur. Bien. Alors, à partir de cela, on va retourner à la théorie de Grémas et de la narrativité généralisée. Que nous dit Grémas au sujet de la narrativité généralisée? Il nous dit, eh bien, moi, je peux, à partir des contenus de base, les trois que je vous ai donnés, vie éternelle, mort éternelle, intérieur, extérieur, richesse, pauvreté, je peux générer tous les récits du monde vont être générés à partir de quelque chose qui va jouer dans ces contenus de base, et ça va être la question de raconter une histoire selon un enchaînement de causalité-conséquence et qui est lié à une temporalité à travers lesquelles des agents d'action vont s'affronter et changer ces contenus pour définir autrement un groupe quelconque et donner une légitimité à ce groupe. Ça, c'est ce que nous dit Grémas dans sa théorie du récit. René Girard nous parle à peu près, qui est un anthropologue, lui et non pas un sémioticien, nous parle à peu près de la même chose. Et il va nous dire, eh bien oui, ce qui prime, comme pour Grémas, ce qui prime, c'est la relation entre le sujet et l'objet. C'est-à-dire que tout récit met en scène des sujets qui vont essayer de contrôler un objet de valeur. Et il va falloir contrôler cet objet de valeur et généralement le prendre de la main de quelqu'un d'autre pour affirmer justement l'homogénéité du groupe, la puissance du groupe par rapport aux autres. Girard nous dit, par exemple, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Ce qu'il se passe, c'est qu'il y a un modèle qui indique quel est l'objet du désir et tout le monde lutte pour obtenir l'objet de désir. Ce qui veut dire que dans une société donnée, dans un groupe qui se considère comme homogène, tout le monde lutte contre tout le monde pour obtenir l'objet de désir. Et autrement dit, toute société homogène tend à s'autodétruire. Puis on le sait très bien. Quels sont nos compétiteurs? Ce sont nos collègues pour avoir les subventions, pour avoir les postes, etc. La solidarité collégiale est détruite par le désir d'obtenir des subventions. Et il n'y a pas assez de subventions pour tout le monde. Mais on fait comme si on était tous d'accord et comme si on était tous homogènes, n'est-ce pas? Et que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Donc, c'est ça que nous dit René Girard. Il appelle ça la mimésis d'appropriation. La mimésis d'appropriation, c'est qu'on nous raconte toujours la même chose. Il y a un modèle qui nous indique l'objet de désir, la subvention, et alors tout le monde veut essayer d'obtenir une subvention, et bien sûr, tout le monde lutte contre tout le monde, ce qui risque de détruire un département, une faculté, une université, ou même une société tout entière, parce qu'on compétitionne tous pour des jobs, etc., etc., avec, vous le savez bien, qui sont ceux qui menacent les jobs, suivant les idéologies politiques. Bon, ce sont les immigrants, ce sont les... etc., etc. Enfin, n'importe qui. Alors, justement, c'est là où intervient René Girard. René Girard, il nous dit, eh bien, pour masquer le fait que tout le monde compétitionne contre tout le monde, eh bien, on trouve des boucs émissaires. Hein, des boucs émissaires qui vont, sur lesquels, finalement, la société va pouvoir tomber d'accord pour dire « Mais non, si c'est le bordel dans notre société, si c'est la pagaille, si la société homogène, calme, l'origine, la situation de départ est stable, il y a des gens toujours qui menacent cette stabilité, puis qui foutent la pagaille, et puis c'est pour ça qu'il y a une compétition, que la société va mal, et on trouve un bouc émissaire. » Bien, c'est ça que nous dit René Girard. Alors vous voyez qu'on est en plein dans la question de la narrativité, là. C'est toujours la narrativité, c'est toujours, qu'est-ce qu'on nous dit dans n'importe quel récit, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui est problématique, qu'il faut éliminer. Au niveau simple, c'est James Bond qui élimine toujours l'espion russe. Hein ? Il y en a toujours un qui est là pour déranger dans une société quelconque. Bon, ça, donc... À quoi sert une narrativité? À quoi servent les récits que l'on lit? Mais ils servent, bien sûr, à trouver le méchant. Bien sûr. Celui qu'il faut éliminer pour que l'on se sente tous bien de nouveau dans l'homogénéité, que l'on croit à l'homogénéité et à la solidarité de notre société. Très bien. Mais on pourrait même dire en plus que ce à quoi ce médium qu'est la narrativité, à quoi elle sert en fait? Elle nous entraîne dès tout petit, dès qu'on nous raconte des contes. Elle nous entraîne à nous faire apprécier, à nous faire jouir du rapport de causalité-conséquence. Et le rapport de causalité-conséquence dans une narrativité est toujours là pour nous faire jouir du fait qu'il y a une victime que l'on doit exclure, que l'on doit éliminer. Donc là, vous voyez très bien le lien avec le point de départ, qui est le paradigme sémantique intérieur-extérieur. On joue constamment sur « nous sommes à l'intérieur, il faut projeter quelqu'un à l'extérieur » et on se met d'accord, on recrée la solidarité sur le fait qu'il y a quelqu'un qu'il faut jeter à l'extérieur. Ça s'appelle le dîner de con au cinéma. Pour ceux et celles qui ont vu le dîner de cons, en Argentina, se llama la picardia. En Argentine, c'est la picardia. C'est-à-dire tomber immédiatement d'accord sur la personne dont on doit se moquer. Pour créer une solidarité de dialogue immédiatement. Donc c'est toujours comme cela que cela se passe, finalement, selon René Girard, dans une structure narrative. Bien, alors, si on s'approche maintenant des Amériques, après avoir parlé un peu de ces questions théoriques sur la narrativité, on va se rendre compte que ce paradigme intérieur-extérieur, très très général, sémantique très général, il a été infléchi par les savants européens, par exemple Alfred Schultz, Louis Agassiz, dans des textes comme « Race of Mongrel »,« Journey to Brazil », etc., etc., donc « Le voyage au Brésil », il a été infléchi du côté de barbarie-civilisation. Et pourquoi? Parce que les Européens, à l'époque, étaient bien sûr colonialistes, par définition. L'invention des États-nations en Europe, ça va de pair avec la colonisation. Pour qu'un État-nation soit riche et fort, il faut qu'il puisse tirer des ressources supplémentaires d'ailleurs. Donc l'invention des États-nations est liée indissolublement au colonialisme et au colonialisme européen et justement au fait qu'il y a des élites intellectuelles qui vont pouvoir construire un discours où ils vont affirmer que eux sont les civilisés et le reste de la planète, ce sont les barbares, y compris d'ailleurs les Blancs nés dans les Amériques, sont vus comme des barbares. Bien sûr les Noirs, bien sûr les Autochtones, tous les Européens voient les gens hors d'Europe comme des barbares, blancs ou pas. Alors vous pourrez lire Agassiz ou Schultz, puis ça sera très clair. Et souvent cela passe par des métaphores comme, eh bien regardez les chiens qui sont des bâtards, c'est la même chose pour les êtres humains, il y a des bâtards et puis il y a des gens de race pure, enfin on n'est pas loin de ce qui va se passer en Europe avec Hitler en fait. Bien. Alors évidemment, Facundo, l'écrivain argentin Sarmiento dans Facundo, le futur président de la République argentine, a publié donc Facundo, où il dit, eh bien, il y a au Rio de la Plata le côté civilisé, ce sont les villes tournées vers l'Europe. Et puis, il y a la barbarie, bien sûr, c'est l'arrière-pays qui est peuplé de créoles, de créoles métissés, d'autochtones, de noirs, etc., etc. Et ce paradigme barbarie-civilisation va couvrir la planète, et en particulier les Amériques, pendant longtemps, pendant plus d'un siècle. Donc, vous voyez que le paradigme intérieur-extérieur dont nous avons parlé à partir du Popol Vuh de la Bible, c'est-à-dire et à partir de la narrativité, ce paradigme intérieur-extérieur où il faut toujours exclure quelqu'un pour construire une société homogène qui est constamment soumise à l'entropie de la mimésis d'appropriation, elle se définit dans les Amériques en particulier par le biais d'un paradigme sémantique plus précis qu'intérieur-extérieur, qui est celui de barbarie-civilisation. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, nous autres d'Amérique, nous faisons constamment face aux autres, ce qui n'est pas le cas des Européens. Nous faisons face aux autochtones, aux Afro-Brésiliens, etc. Et nous-mêmes, nous nés, si nous sommes nés dans les Amériques, nous faisons face aussi aux Européens qui se considèrent comme civilisés. Donc notre identité fait face à une identité considérée comme supérieure, en particulier au XIXe siècle dans les Amériques, les Européens, et puis à ceux qui sont considérés comme inférieurs, les Noirs et les Autochtones. Et puis nous, les Blancs nés dans les Amériques, on ne sait pas où se situer. C'est un des grands problèmes des Amériques, d'ailleurs, pendant un siècle, au Canada anglais, au Canada français, en Argentine, etc., etc. Beaucoup moins aux États-Unis. Bien, donc paradigme barbarie, civilisation, et la plupart des récits qui vont se raconter à travers un siècle dans les Amériques, c'est toujours ça, là. On est toujours le barbare ou le civilisé de l'un de l'autre. Et cela joue non seulement vis-à-vis des Noirs ou des Autochtones, mais cela joue vis-à-vis des minorités, ou des antagonismes profonds. Les Canadiens français pour les Canadiens anglais sont des barbares, sont des gens qui n'ont pas de littérature, disait un gouverneur du Canada. Une société sans culture et sans littérature. Bon, donc ce sont des barbares. Les Canadiens français sont des barbares pour les Canadiens anglais, etc. C'est le rapport Durham, bien sûr. Dans certains romans canadiens français, La Terre paternelle, c'est un peu l'inverse. Les Canadiens français se veulent comme un groupe homogène, et le barbare, c'est le Canadien anglais qui vient acheter une terre. Bon. Donc, se joue constamment, on nous raconte toujours des récits où il faut trouver quelqu'un qu'on doit exclure et qui est menaçant pour reconstituer l'homogénéité de la société, qu'elle soit canadienne anglaise, qu'elle soit canadienne française, etc., etc. Alors, en 1928, vous avez un écrivain brésilien qui s'appelle Oswald de Andrade, qui essaye de couper tout ça, lui-là. Il dit, eh bien, il est un des premiers à le faire, il dit, eh bien, voilà, il faut reconnaître la valeur des autres groupes culturels, des autres sociétés. Nous sommes tous dans les Amériques mélangés, nous sommes tous en rapport les uns avec les autres, les gens d'origine européenne, les Afro-Brésiliens, les Autochtones, etc. Et tout le monde apporte des choses importantes, intéressantes, à la nation qui est en train de s'inventer, qui est constamment en train de s'inventer. Donc, il propose ce qu'on appelle, dans son manifeste anthropophage, l'anthropophagie, c'est-à-dire digérer ce que les autres cultures peuvent apporter et rejeter ce qui est mauvais dans les autres cultures aussi, pour faire une espèce de métissage ou de créolisation ou de mélange ou d'hybridité, etc., etc. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que justement Oswald de Andrade n'écrit pas de roman. Son manifeste anthropophage, ce n'est pas un roman, ce n'est pas une nouvelle, ce n'est pas un conte, ce sont des fragments, ce sont des phrases jetées sur la page, là. C'est-à-dire que, consciemment ou inconsciemment, il est très conscient que la narrativité, justement, repose sur des rapports de cause à conséquence qui mènent inévitablement, si on ne fait pas attention, à présenter un récit où on va exclure quelqu'un, et il veut exclure personne, en fait. Donc, on est dans le texte fragment et non pas dans le texte narratif. Et il va y en avoir d'autres. Alors, je vais, à partir de cette technique qui est je dirais, très intéressante dans les Amériques. Je vais me consacrer à un autre texte beaucoup plus récent. Donc, ça va être Yann Martell, l'histoire de Pi, Yann Martell, Life of Pi. Donc, qui est un roman best-seller écrit par un Canadien français, écrit en anglais par un Canadien français. Et ce roman a eu le Booker Prize, c'est-à-dire le prix le plus prestigieux du monde anglophone. Donc, c'est un best-seller qui s'est vendu à des millions d'exemplaires dans les aéroports et on a tiré un film. Et qu'est-ce que c'est que l'histoire de Life of Pi? L'histoire de Pi, c'est l'histoire de Piscine, Pi, un jeune enfant, un adolescent, qui vit avec sa famille en Inde, et ses parents possèdent un zoo, donc il est habitué à fréquenter les animaux, et à être en communication sémiotique avec les animaux, et puis ces gens-là décident d'émigrer au Canada. Alors, ils montent dans un bateau avec quelques animaux parce qu'ils transportent un peu leurs os. Et puis, le bateau coule et il survit sur le radeau, l'adolescent Pi et puis un tigre, ce qui est embêtant. Alors, le narrateur nous dit clairement au début, « Vous inquiétez pas, c'est une histoire qui va bien finir. » Donc, il coupe le rapport de suspense et le rapport de causalité-conséquence. C'est-à-dire que dès le départ, on commence à se rendre compte qu'il ne veut pas s'engager dans une narrativité qui va mener à ce qui est des bons et des méchants, à ce qui est quelqu'un d'exclu. Déjà, il est conscient de ça. Et toute l'histoire, en effet, de Pi et du tigre, c'est de montrer que face à une altérité très radicale, pour un tigre, Pi, c'est une altérité très radicale et vice-versa, il va y avoir possibilité de communication sans bouc émissaire. Ben, on va dire, jamais vu un tigre bouc émissaire, mais enfin, sans qu'il y ait justement de victimes. Alors évidemment, comme Pi a été habitué à une conscience sémiotique des codes animaux et de toutes sortes de codes, il va fonctionner pour contrôler le tigre. Évidemment, on sait très bien que les animaux fonctionnent par les codes de dominance. Alors Pi va s'affirmer comme le plus dominant en écartant les bras, en se montrant plus agressif, en hurlant, etc. Il a du mal, mais finalement, il finit par affirmer une certaine dominance. Bien, Pi est aussi un être humain. En plus de jouer au tigre. Donc évidemment, il est formé depuis toujours, par sa culture, à la mimésis d'appropriation. C'est-à-dire qu'il va avoir tendance, bien sûr, à essayer de construire un groupe en éliminant un ennemi. L'ennemi, bien sûr, c'est le tigre. Dans ce cas-là, c'est l'autre. Le tigre symbolisant l'autre, qui peut être n'importe qui, n'importe quelle altérité culturelle, etc., etc. Bien, alors, mais il ne le fait pas, il contrôle la mimésis d'appropriation, et on le voit très bien quand il y a l'île flottante. Alors les critiques n'ont pas compris à quoi sert l'île flottante. Ça sert à ça, l'île flottante, ça sert entre autres à montrer que le tigre et Piscine se promènent sur l'île flottante, et puis quand il s'agit de remonter sur le bateau, Piscine, au lieu de partir sur le bateau tout seul et d'abandonner le tigre, il lui dit, ben viens, donne la papade, puis monte sur le bateau, là, et puis on va continuer notre voyage ensemble. Donc là, il n'y a pas d'exclusion de l'altérité. C'est clair que le récit, la narrativité girardienne, elle est éliminée là. Il n'y a pas de processus victimaire. Bien, donc il s'inscrit dans une logique ternaire finalement, où il est possible finalement, jusqu'à un certain point, d'accommoder de la présence proche de l'autre et de vivre avec l'autre. Et l'autre point qui est très important dans l'histoire de Pi, c'est de voir que quand le tigre et Piscine arrivent sur les côtes du Mexique, le tigre, bah, il s'en va, là, il va faire le tigre de nouveau dans la forêt, et puis Piscine, il va se faire réparer dans un hôpital. Hein, parce que 300 jours en mer avec un tigre, c'est un peu fatigant. Donc, D'autant plus qu'il a contrôlé les conduites de dominance, il a modifié les conduites de dominance en nourrissant le tigre. Hein, normalement, un dominant ne nourrit pas celui qu'il domine, au contraire, il prend toute la nourriture. Donc il y a eu tout un jeu intellectuel et de code là. Alors il est à l'hôpital et puis les assureurs japonais qui arrivent, qui lui disent « Mais que s'est-il passé? C'est quoi les causes ?» Encore une fois, la question de la causalité qui revient. « C'est quoi les causes de ce naufrage-là » Parce que nous, on est obligés de payer pour ça, c'est embêtant, là. Il dit « J'en sais rien. » Il y a eu une explosion, je pense. Enfin, j'ai entendu un bruit, puis je me suis retrouvé sur un radeau avec un tigre. Je sais pas. Donc, on n'a pas l'explication. C'est pas pourquoi le bateau a coulé. OK. Puis là, les assureurs lui disent « Bien, racontez-nous ce qui s'est passé. Ben, j'étais avec un tigre, puis j'ai survécu 300 jours, etc. etc. » C'est pas vrai. C'est pas possible. OK, j'ai pas de problème. Je vais vous raconter une autre histoire. Alors là aussi, vous voyez que une causalité-conséquence ne marche pas. On va en trouver une autre. Ça fait rien, là, etc. Je vais vous raconter une autre histoire. Alors l'autre histoire, ben, on était sur le radeau avec ma mère et le cuisinier. Voilà. Puis on avait faim. Richesse-pauvreté, là. Hein. On avait faim. Bon, ben, richesse-pauvreté, il faut manger. Bon, ben, moi et le cuisinier, on a tué ma mère, puis on l'a mangé. Alors, quelqu'un a été projeté hors du groupe intérieur-extérieur, bien sûr, pour assurer richesse-pauvreté, là. Bon, OK. Ah bon. Et puis, ben, après, j'avais faim, j'ai tué le cuisinier. Et me voilà. Bien, donc vous avez tout un récit d'exclusion qui est là. Alors les Japonais, ils disent, bon, on ne croit pas à ça non plus, qu'il ait tué sa mère, hein, mangé sa mère, ça ne se fait pas. OK. Alors il dit, bon, quel est le récit qui vous plaît le plus, finalement, là? Vous préférez celui avec les animaux ou celui avec ma mère? Les Japonais disent, bon, on préfère celui avec les animaux. Bon, ben très bien, vous prenez celui avec les animaux, donc celui finalement du multiculturalisme, là, où tout le monde arrive à survivre plus ou moins bien, en évitant le processus victimaire, là. Et puis voilà, donc prenez celui-là, là, celui où il n'y a pas de victime, celui où il n'y a pas de causalité, conséquence qui mène à l'exclusion de quelqu'un. Puis il dit, bien, vous voyez, si vous préférez celui avec les animaux, ben c'est la même chose pour le récit avec Dieu. C'est mieux d'avoir un récit avec Dieu qu'un récit sans Dieu. Donc là réapparaît bien sûr le paradigme vie éternelle, mort éternelle. Hein? Il faut se souvenir que Pi, quand il était en Inde avec ses parents, il avait dit à ses parents « Moi, je suis bouddhiste, musulman et chrétien ». Ce qui avait évidemment enragé les représentants de chacune de ces religions-là, bien sûr, qui ne pensaient qu'à exclure ceux des autres religions. Donc vous voyez que dans les Amériques, là, et puis il y a quelques autres textes, vous avez Oswald de Andrade avec ses fragments, vous avez l'histoire de Pi avec cette lutte constante contre la narrativité de cause à conséquence, et vous avez aussi par exemple un texte qui est un texte intermédial de Lucky Bersianic, le pique-nique sur l'Acropole, où il y a une critique du grand récit de légitimation platonicien qui exclut les femmes, j'en parlerai pas parce que mon temps est bientôt expiré là, mais qui est aussi un texte intermédial où il y a des photos, des fragments, etc. Tous ces auteurs là tente désespérément d'échapper à cette narrativité universelle, générale, généralisée, qui fait que le rapport de cause-conséquence mène toujours à exclure une altérité quelconque ou à présenter une altérité comme méchante et donc légitimer le fait de désirer l'exclure. Alors, en conclusion, je dirais qu'il y a aussi d'autres manières de repenser cette structure narrative causale qui mène constamment à l'exclusion d'une victime. Vous l'avez, par exemple, chez une écrivaine mexicaine qui s'appelle Laura Esquivel, dans celle qui avait publié « Como agua para chocolate », qui a publié « La loi de l'amour ». Et dans « La loi de l'amour », il y a une réécriture de l'histoire officielle mexicaine, où bien sûr, au départ, il y a la femme violée par le conquistador dans « La loi de l'amour », à travers une série de réincarnations, à travers les siècles, la femme autochtone violée devient homme blanc et ensuite femme blanche qui domine l'homme autochtone et ensuite femme autochtone qui domine l'homme blanc, etc., etc., jusqu'au XXe siècle. Et ce qu'il se passe, c'est qu'elle fait que dans ses réincarnations, l'autre est bien sûr est en soi et le soi en l'autre et est capable de sentir, subir charnellement, en fait, par ce technique des réincarnations, la souffrance de l'exclusion. Donc vous voyez que là, ce qu'il se passe aussi au niveau des déconstructions de la narrativité causale conséquentielle, ça se passe par la réincarnation et ça se passe par le fait qu'on détruit, déconstruit toute l'histoire officielle du Mexique en jouant sur des instants de souffrance. J'ai été violé, j'ai été meurtri, j'ai été torturé, etc. Et ce qui compte dans ce roman, ce n'est pas un enchaînement causal, ce sont des instants où la violence sévit et où cette violence est revécue dans le corps à travers une réincarnation. Donc tous ces écrivains-là, et je pense que c'est très particulier aux Amériques, tous ces écrivains-là tentent de contrôler cette narrativité causale conséquentielle pour produire des textes différents qui sont forcément au niveau de la forme écrits différemment pour arriver à échapper au processus victimaire et à la mimésis d'appropriation qui sont les fondements de la causalité conséquence de la narrativité généralisée. Et je m'arrête là, je vous remercie.